Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Avec l'été, on vous propose de réécouter certains de nos épisodes favoris de Passage, de mettre vos écouteurs et de vous évader. Des histoires pleines de péripéties, des aventures marquantes avec de l'adrénaline, que ce soit à l'autre bout du monde ou dans son salon. Bonne écoute et bon voyage. J'ai grandi avec les récits de voyage de mon père. Aux États-Unis pendant un an, où il travaillait comme serveur et a écumé le pays du Canada au Mexique. En Inde, où il a mangé une glace d'un vendeur de rue le troisième jour et a été malade pendant les trois mois qui ont suivi. Au Pakistan, où ma mère l'a accompagné parce qu'elle pensait qu'il allait lui demander sa main, et où elle a failli mourir, emportée par un torrent. Puis où elle a perdu la vue, car ses yeux étaient brûlés par la lumière sur les glaciers. Finalement, il n'y a pas eu de demande en mariage, elle est rentrée ravie. Et puis, il y a eu la Chine, où il a appris la chute du mur de Berlin par téléphone filaire sur un quai de gare. En Islande, où il a campé pendant trois semaines sous la pluie, au Sultanat d'Oman, à Madagascar. Quand je suis devenue jeune adulte, je suis partie à mon tour cinq mois en Amérique du Sud, avec ma petite sœur. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai failli ne pas y aller. J'étais au tout début de ma vie professionnelle, et je me suis dit que c'était le pire moment pour partir, que ce n'était pas bien raisonnable, qu'il fallait que je reste et que je cherche un travail. J'étais un peu tétanisée. Mais bon, je n'avais pas non plus laissé ma petite sœur partir toute seule, donc j'y suis allée. Mais sans cette « obligation », entre guillemets, je pense que je n'aurais pas eu le courage de franchir le pas. C'est étrange, et ce n'est pas bien glorieux, mais c'est comme ça. C'est sans doute pour ça que je suis aussi fascinée par l'histoire d'Apolline que vous allez entendre dans cet épisode. Parce que j'admire les personnes qui décident, envers les normes qui leur sont dictées explicitement ou implicitement, de faire ce qui est bon pour elles, tout simplement. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît et un courage qu'on ne célèbre sans doute pas assez. Ça m'inspire de voir que d'autres modes de vie, d'autres choix sont possibles. Et surtout de voir des personnes faire ces choix avec détermination et gaieté. Dans cet épisode de Passage, un voyage, une histoire d'amour et une incroyable aventure au beau milieu du Pacifique. Apolline et Nano, au micro de Stéphanie Thomas. Je suis Louise Emerlet, bienvenue dans Passage.
Je suis marin, quelque part. Je connais un petit peu, je sais lire une carte, je sais prendre en main un bateau, et ben maintenant je continue, je vais y arriver. Et puis les choses se font comme ça, et on arrive, on se réveille, on est dans son cockpit, tout seul, on entend les bruits du bateau, il y a les dauphins qui sont là aussi. Il y a un arc-en-ciel magnifique, je passe en dessous, j'ai l'impression de passer une étape. C'est comme une porte qui s'ouvre à moi, et là je vois Tahiti, je vois Moréa, les dauphins qui m'accompagnent. Et là, je vis vraiment ce que c'est que la navigation en solitaire. Même si c'est que une journée et une nuit de navigation au total. C'est génial, voilà. Et ça, ça devient ma vie. Je me rends compte que maintenant, ben, ma vie, c'est ça. Je m'appelle Apolline. Je suis normande, j'ai 35 ans. Je suis monitrice de plongée. Je plonge depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Donc la mer et le milieu marin, c'est vrai que je m'y sens bien. Après mes études, j'ai eu un manque. J'ai eu envie de prendre la mer, vraiment, réellement. Et c'est là que j'ai commencé à m'épanouir vraiment, à passer mon monitorat de plongée. Ensuite, suite à ça, j'ai découvert la mer. J'ai découvert la voile assez tard. J'avais 25 ans quand j'ai découvert la voile. Après, la voile, c'est particulier, c'est un autre domaine. Ça fait maintenant 10 ans que je navigue. J'ai découvert qu'on pouvait voyager en bateau, qu'on pouvait naviguer et qu'on pouvait en vivre aussi. Et j'avais énormément envie de voyager, de prendre l'air, de zapper un petit peu ces années d'études qui m'ont semblé longues. Donc j'avais vraiment envie de m'épanouir sur l'eau et là je me suis dit je vais pas faire comme tout le monde, prendre un billet d'avion, faire le tour du monde, je vais apprendre à naviguer. Donc j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a appris, donc j'ai appris avec lui à naviguer et il avait un bateau à l'époque. Donc je me suis fait la main sur donc, un bateau en aluminium. J'ai décidé de passer mon diplôme de matelot dans l'idée de partir parce qu'on avait pour projet de partir donc à la voile, faire un tour du monde, on s'est dit allez on y va. Et on est parti, donc les Canaries, ensuite la transatlantique. Ensuite, j'ai continué aux Caraïbes à travailler sur les bateaux en tant qu'hôtesse, marin, cuisinier. Je ne connaissais rien à la cuisine, mais pour pouvoir embarquer sur les bateaux, je me suis dit, allez, j'improvise les menus et ça va bien se passer. Hop, donc je me suis fait 3 ans comme ça. Ensuite de mon travail de marin sur les catamarans, j'ai décidé de m'accorder une année de répit et là je me suis lancée à faire du bateau stop, donc de la Martinique jusqu'à Tahiti, en passant par Panama, Galapagos, Marquises, toutes ces îles qui font un peu rêver, je veux aller voir ça. Et puis la Polynésie, ça me résonnait en tant que plongeuse, j'avais envie d'aller voir là-bas un petit peu ce qui se passait sur l'eau et sous l'eau aussi. Arrivée en Polynésie, je suis tombée amoureuse de la culture. Donc là, j'avais plus vraiment envie de plonger. Finalement, j'avais plutôt envie de danser, chanter. Les gens m'ont vraiment touchée au cœur. C'est une culture particulière. Les gens m'ont apporté une certaine paix. Voilà, je me suis sentie tout de suite bien là-bas, une certaine paix intérieure. Et j'ai continué mon périple. J'ai continué jusqu'à Tahiti en bateau stop. J'ai découvert les deux packs. Bon, là, j'y suis en avion. Aller en avion, à l'époque, il y avait une connexion Tahiti-Île de Pâques en avion. Lors de ce premier voyage, j'ai rencontré Nano. Il y avait aussi sa famille. Et en fait, j'étais logée dans son quartier. Donc, je l'avais aperçu. On avait discuté, on avait parlé. Et il aime beaucoup parler. Mais il est déjà avec une autre femme, donc moi j'ose pas tellement l'approcher quoi. C'est amical et sans ambiguïté. Donc j'ai eu le temps de bien découvrir l'île, bien faire la touriste comme on dit, mais j'ai essayé quand même d'aller au contact des gens. Moi ce qui m'intéresse c'est pas arriver avec mon appareil photo, prendre en photo les statues caractéristiques de l'île de Pâques, qu'on appelle les Moai. Je termine mon périple, je retourne aux Caraïbes, je refais une saison comme hôtesse, donc sur les catamarans, encore une fois, de charter, pour mettre des sous de côté. Et là, je décide de retourner en Polynésie parce que vraiment, c'est là où je me sens le mieux. Et j'investis dans un bateau. Le bateau s'appelle Tétis, un bateau de 11,50 m, donc ça commence à être confortable, on va dire. Donc sur ce bateau, c'est une fresque. Les anciens propriétaires avaient peint plein d'animaux. Une baleine, une tortue, une raie-manta, un requin. Et j'avais du mal à me décider quand même, parce que c'est quand même un tremplin hein, d'investir dans un bateau. Et sans avoir jamais été capitaine d'un navire, là, c'était ce qui allait se produire. Et ce qui m'a décidé, c'est que dans cette même journée, j'ai vu tous ces animaux. Il y avait les baleines, je les ai entendues dans la baie de Moréa. Je vais plonger le matin en snorkeling, je vois la raie, le requin, la tortue, et il y avait 3 petites étoiles à l'avant, et la nuit je vois les 3 étoiles filantes, et là je me dis, ok, c'est bon, j'achète. Puis c'est vrai que l'île de Pâques, c'était la destination finalement la moins chère en partant de Tahiti. Et ça m'avait vraiment tellement plu, je me suis dit, allez, je me fais une excursion là-bas. Donc me voilà retournée à l'île de Pâques. Je loue un Airbnb au dernier moment, comme ça. J'ai tout réservé au dernier moment, une semaine avant de partir. Et je tombe chez Nanohawa. Donc je réserve, à la base, c'était une femme qui avait mis l'annonce sur Internet. Il se trouve que je tombe chez Nanohawa. Donc je percute que c'est la même personne. Sauf que j'arrive, tout est en désordre. En fait, ils s'étaient trompés dans les dates. Ils n'avaient pas prévu mon arrivée ce jour-là. Ils l'avaient prévu la semaine suivante. Donc tout était en bazar. Donc moi, je me retrouve devant la maison avec mes sacs. Je me dis, bon, où est-ce que je vais aller? Il me dit, t'inquiète pas, pas de problème. Je fais le ménage, tu reviens. Ça va être prêt en fin de journée. OK. Donc j'ai sa tante qui me prend sous son aile. On va sur la plage, on décortique quelques oursins. On pêche quelques petits poissons avec ses petits-fils. Et la journée passe comme ça. Et donc le soir, je retourne au logement. Et là, je le vois pas pendant au moins 4-5 jours puisqu'il avait tellement honte de m'accueillir chez lui. Que ce soit le bazar. Donc on s'est pas vu pendant 4-5 jours, mais après, voilà, on a commencé à se voir, se fréquenter, etc. C'est là qu'on s'est vraiment rencontrés et que tous nos projets se sont finalement vite installés. Voilà, tout de suite, on a vite voulu vivre quelque chose ensemble.
Je m'appelle Fernando Haoa Ridoroco. Je suis né à l'île de Pâques, Chili. J'ai 41. Je vais raconter mon histoire en espagnol.
Je vais raconter mon histoire en espagnol.
Et Apolline fue a vacacionar.
Apolline est venue en vacances. Elle a loué une de mes cabanes ici à Rapa Nui.
Et ahí nos conocimos.
On s'est rencontrés comme ça.
Et
il y a quelque chose de beau,
ella,
très clos.
Mais
tout a une fin. Elle a dû rentrer.
Peu de
temps après son départ, on s'est mis à s'écrire pour planifier nos retrouvailles, pour faire un voyage ensemble et commencer quelque chose ensemble.
À un moment donné, il faut bien partir. Donc à un moment donné, il faut quitter l'île de Pâques. Moi, j'avais prévu de rester un mois. J'ai mon bateau qui m'attend à Tahiti. Et on se dit que Nano me dit, le mois prochain, je viens. C'est à mon tour d'aller à Tahiti. Et puis on fera ça. On essaiera de faire ça tous les 2-3 mois. On essaiera de... Un coup, c'est toi, un coup, c'est moi. Et voilà, jusqu'à ce qu'il puisse lâcher un peu son entreprise, la faire tourner toute seule et qu'il puisse me rejoindre sur le bateau. Et on se donne un an, on se dit allez, on se donne un an. Et dans un an, je viens, il me dit je te rejoins sur le bateau et là on se lance pour naviguer ensemble. Là, suite à ça, il y a la Tapati qui est le festival de l'île de Pâques. Donc lui, il se doit d'être là au moment de la Tapati pendant un mois. Ok. Et là, il me dit, ok, j'arrive, je prépare, je suis en train de réserver mon billet, mais il me dit, le problème, c'est qu'avec la Tapati, les prix ont doublé. Donc on va peut-être attendre une semaine, ça va chuter. Et là, je vais pouvoir venir, ça sert à rien que j'arrive tout de suite, le prix est doublé, on attend, on patiente encore une semaine et j'arrive. Et là, ce qui se passe, c'est que le Covid arrive. Ça, on ne l'avait pas du tout prévu. Et ils arrêtent la connexion Tahiti-Île de Pâques, mais du jour au lendemain.
Le monde entier a commencé à se fermer. Les pays se sont mis à fermer leurs frontières. On ne pouvait plus voyager. L'avion, on arrêtait de voler. Et nous, notre histoire continuait de se grandir. Il n'y avait plus d'avion. Puis un avion du gouvernement français est venu à Rapa Nui pour répatrier des Français. J'ai voulu monter, mais je n'ai pas pu, parce que je n'ai pas de passeport français ni rien. Donc on a dû patienter.
Et alors là, a commencé une longue période, très 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 longue, interminable, où tous les jours on a dû s'appeler, tous les jours c'était des coups de fil. Tu me manques, quand est-ce qu'on se voit? Bon, c'était pas très agréable. Ce qui me fait le plus de mal à ce moment-là, c'est me sentir prête. C'était la première fois qu'un homme, en fait, me donne envie de m'investir dans une vie de famille, une vie de couple. Et ce qui touche profondément, c'est de se sentir atteint, l'âme en quelque sorte, ton âme qui veut cette route-là. et tu sens que quelque chose t'attire, c'est une énergie d'amour donc qui est très très forte. Et il y a quelque chose qui t'empêche de vivre ça. Bah d'ailleurs, les mois passent. Donc un mois, deux mois, trois mois. À Tahiti, ils réouvrent l'aéroport. Mais l'île de Pâques, jamais ça réouvre. Jamais, ça reste tout le temps fermé. Ça reste fermé entre Tahiti et l'île de Pâques, ça reste fermé. Mais aussi entre l'île de Pâques et le Chili. Parce qu'il faut savoir que l'île de Pâques, ça appartient au Chili. Donc ça reste fermé au Chili aussi. Donc ça veut dire que les habitants, les passe-coins, ils peuvent pas sortir de l'île, ils peuvent pas s'échapper, ou alors pour raison maladie grave, très très grave, et là ils sont évasanés à l'hôpital au Chili, mais c'est la seule raison finalement. Donc il y a des avions qui viennent pour eux toutes les semaines les ravitailler, mais pas du tout de transport de passagers, ni pour rentrer ni pour sortir. Et ça, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, et on n'a pas de date.
L'île
est restée fermée 12 ans. 12 ans. À cause du Covid. Et mon peuple a eu peur. Il y a eu tellement peur qu'ils ont confiné l'île. Personne ne pouvait approcher de l'île en bateau. Personne ne pouvait partir d'île par avion. Personne.
Et moi, j'ai, à un moment donné, je décide de me lancer à naviguer. Je me dis, je suis toute seule, j'ai mon bateau, là. En fait, j'ai jamais navigué toute seule. Donc voilà, c'est mon premier bateau. Et le but, c'est de le prendre en main déjà dans un premier temps. Je décide d'aller avec donc un ami, Sylvain, qui était mon instructeur de plongée au Glénan. Il m'accompagne jusqu'à Wahine. Donc Wahine, c'est une journée et demie de nav de Tahiti. Et là, on se fait une journée de navigation de nuit ensemble. Donc là, c'est pareil, je prends confiance de plus en plus, mais je ne suis pas encore seule sur mon bateau. Et là, pendant ce temps-là, les semaines passent, les mois passent, toujours avec Nano, on s'appelle, etc., on se moque. Donc, moi, je continue dans ma foulée, je rencontre un petit papy qui navigue, il s'appelle Norberto, et il me dit « Demain, je vais à Bora Bora, tu me suis ?» Hop, on se suit, on navigue. Et on va à Bora Bora. Là, j'avais quelqu'un encore avec moi à bord. Et on revient de Bora Bora, on retourne à Raiatea. Et là, Nano, ça va plus du tout. Il supporte plus du tout que j'ai quelqu'un à bord. Donc là, je me dis, non, mais il faut vraiment que j'arrive à passer le cap et à naviguer toute seule, quoi. Il est jaloux complètement, complètement. Donc jaloux au point qu'il veut même plus le parler. C'est mon anniversaire, il m'appelle même pas. Donc je suis triste encore plus. Donc c'est dur, ça devient dur, très dur pour tous les deux. Donc là, j'ai dit, ok, là, il faut passer une étape. Donc là, je décide de partir seule et je suis Norberto. C'est-à-dire qu'on part à deux bateaux. Lui, il est sur son bateau et on se suit. Donc là, on se dit, on est à Raiatea, on se dit, on va à Wahine. Wahine, c'est à côté. Normalement, c'est 4 heures de navigation. Sauf que ce jour-là, le vent, il est de face. Donc c'est double temps. Normalement, on met deux fois plus de temps. Et là, on se dit, on va pas arriver avant la tombée de la nuit à Wahine. Et là, je dis à Norberto, à la radio, je lui dis, écoute, qu'est-ce qu'on fait ? On continue, quitte à passer la nuit en mer, on continue, puis on arrivera demain matin sur Tahiti. Donc, nouvelle partie, on enchaîne la nuit. Et là, je passe, du coup, ma première nuit en mer. Quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, être seule sous les étoiles, comme ça, seule sur son bateau, et je vois que ça se passe bien. Le bateau, je me rends compte que je commence à le prendre en main. Il y a tout qui fonctionne. À un moment donné, Norberto, je l'ai plus à la radio. Je le vois plus sur l'AIS, c'est-à-dire le petit curseur qui me permet de voir sur l'ordinateur où il est. Je le vois plus, il est plus présent. C'est pas grave, je continue et je me dis, de toute façon, je suis marin quelque part. Je connais un petit peu, je sais lire une carte, je sais prendre en main un bateau et maintenant je continue, je vais y arriver. Et puis les choses se font comme ça et on arrive, on se réveille. On est dans son cockpit, tout seul, on entend les bruits du bateau, il y a les dauphins qui sont là aussi. Il y a un arc-en-ciel magnifique, je passe en dessous, j'ai l'impression de passer une étape. C'est comme une porte qui s'ouvre à moi et là je vois Tahiti, je vois Moréa, les dauphins qui m'accompagnent. Et là, je vis vraiment ce que c'est que la navigation en solitaire. Même si c'est que une journée et une nuit de navigation au total, c'est génial, voilà. Et ça, ça devient ma vie. Je me rends compte que maintenant, bah, ma vie, c'est ça. Donc moi, quand j'arrive à Tahiti, ce que j'ai envie, c'est retourner aux Marquises déjà. Le Covid, tout ça, nano, c'est compliqué. Peut-être que si j'allais aux Marquises, si j'y arrivais, ça me mettrait du baume au cœur, je me sentirais bien, je retrouverais les gens que j'avais rencontrés là-bas. Quand j'étais arrivée en bateau stop là-bas, ça me ferait du bien, je serais parmi eux. Il y a un club de plongée là-bas, je vais peut-être pouvoir y travailler. Donc, je me débrouille et là, je trouve un équipier quand même pour m'accompagner jusqu'aux Marquises. Parce que les Marquises, c'est loin, donc c'est au moins une semaine de navigation. Et nous voilà partis tous les deux là-bas. Alors, avec Nano, c'est compliqué, on se parle quasiment plus, là, on a quasiment plus de coup de fil. C'est dur, c'est très dur. Mais c'est pas grave. Ma seule façon de continuer à encaisser tout ça et à me sentir bien, c'est de rejoindre ces îles-là, les îles Marquises. Donc on y va. On met 5 jours face au vent, mais alors avec une météo, avec ce qu'on appelle des grains, c'est-à-dire des gros nuages gris qui passent, il tombe de la pluie, le vent sous les nuages forcit, donc on a 30-35 nœuds de vent. J'arrive à Eyao, et là je me dis, bah ça y est, c'est fait, le défi il est relevé. Je suis arrivée aux Marquises, et là je commence à penser à Nano. Je me dis, bah, puisque j'ai réussi à naviguer jusqu'aux Marquises, peut-être que je pourrais aller plus loin encore. Tout est possible finalement. Et entre-temps, dès que j'ai eu la première connexion, bah en fait, Nano, il m'avait recontacté. Tout bête, parce que finalement, quelque part, on était restés connectés, hein, et il voulait... Il voulait toujours hein, notre projet, notre aventure, et je me dis, peut-être que je pourrais rejoindre Nano. Je commence à y penser, là. La petite graine commence à s'installer dans mon cerveau. Alors, l'île de Pâques, c'est très loin, c'est très éloigné. Donc, de Tahiti, ça doit faire 2000 nautiques, donc en kilomètres, 4000, quelque chose comme ça. On fait notre mouillage, donc on pose l'ancre, on va à terre. Et j'étais toute contente, donc, d'aller retrouver ces gens-là que je connais, que j'avais pas vus depuis 4 ans maintenant déjà. Et je vais à la première maison du village, chez Rose et Frédéric. Ils ont un petit-fils qui s'appelle Monatini. Et Monatini, il est en train de jouer avec un jeu de cartes avec tous les monuments du monde. Je sais pas, les pyramides d'Égypte, le Christ là à Rio de Janeiro, c'est ça? Tous les monuments du monde. Et il me donne une carte, il me dit au hasard, il en tire une comme ça, je lui ai rien demandé, hein. Il me la donne, il me dit tiens c'est pour toi. Et j'avais mon équipier là à côté de moi, il regarde la scène et je regarde la carte et c'était les Moai de l'île de Pâques. Et alors là je me dis ah ok, donc c'est ça le signe, c'est ça la prochaine étape, tout de suite je comprends que c'est ma prochaine étape. Je me dis les Marquises c'est check, c'est fait, maintenant on est là, prochaine étape, et ben je me dis j'ai 3 mois pour préparer mon bateau. 3 mois c'est pas beaucoup pour préparer un bateau et pour aller dans ce genre de navigation là, et je me mets en tête de préparer mon bateau.
Notre histoire continue de grandir et Pauline m'a dit qu'elle avait un plan, qu'elle avait acheté un bateau et qu'elle voulait venir me chercher avec. Alors à ce moment, j'ai eu peur. Elle m'a fait peur. J'ai eu hyper peur.
À pesar de que nosotros
parce que même si on ne sait pas naviguer,
vivimos en una isla.
On vit sur une île.
Y en esa isla, el solo
et juste
vivir
en habitant
en ella,
sur cette île,
todos sabemos cómo es
on
ese
sait comment est la mer.
Todo el mundo de Rapa Nui sabe que ese mar est,
tout le monde de Rapa Nui sait que cette mer est difficile, qu'elle est dangereuse. Et qu'elle, elle voulait faire ça seule. Moi, au début, je lui ai dit que non.
Je lui dis, peut-être que je pourrais tenter d'aller te chercher. Et lui ben, commence à se mettre ça en tête aussi, alors que quand j'étais encore à Tahiti, il me disait, non, fais pas ça, c'est trop dangereux. Ben, là, on se rend compte que c'est notre dernière chance. Les avions n'ouvrent toujours pas. Ça fait 6 mois que l'île est toujours fermée, 6 mois, donc 6 mois qu'on s'attend. Et c'est soit par la mer, on y arrive, ou soit on se dit que c'est fini, ou qu'on se retrouve à un autre moment, mais on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et j'essaye de comprendre à travers les légendes qui disent aussi, les Marquisiens disent aussi qu'ils ont été, eux, peuplés l'île de Pâques. Et les Marquisiens se disent ancêtres des Rapa Nui, en fait, dans leur légende. Alors j'essaye d'avoir des infos, je leur dis, mais est-ce que vous avez des chansons, des histoires? Essayez de me dire un peu par quelle île vos ancêtres auraient pu passer, quelle direction ils auraient pu prendre, quel vent ils auraient pu prendre, à quelle saison ils auraient pu quitter l'île. En fait, il n'y a aucune info. Personne n'a jamais fait ce voyage-là. Donc je me lance dans un défi un petit peu fou. Je m'en rends bien compte, hein. Mais quelque part, je me dis, rien n'est impossible et si je tente pas ma chance, ma vie, elle va rester comme ça. Je vais travailler, je vais avoir mon quotidien, mais je vais pas être proche de l'homme que j'aime finalement, avec qui j'ai envie de construire quelque chose. Je vais devoir faire abstraction de ça et ça, pour nous, c'est dur. Donc, je tente ma chance. On est en novembre 2020. Et en novembre, ce qui se passe, c'est qu'en novembre, normalement, c'est connu pour que les vents du nord arrivent, qui est un petit peu, c'est-à-dire que les vents, ils sont toujours orientés est, mais ils tournent un petit peu nord-est. Donc ça permet de faire des navigations vers l'est. Je vais jouer cette carte-là. J'attends le mois de novembre. Et en fait, on est le 20 décembre, et là je me rends compte que la météo arrive, le vent du nord arrive, il est en retard, le vent du nord, il n'est pas venu en novembre, il est venu en décembre, mais il arrive le 20. Et on est le 20, et le vent, je vois la météo, je prends la météo, et là il y a un vent parfait, un vent du nord, nord-est, parfait. Et je calcule un peu, et je me dis, mais là je pourrais faire cap direct sur Rapa Nui, avec un vent comme ça, je gagnerais déjà la première semaine, je gagnerais de la distance, je ferais un super cap. Je vois ce qui se passe, et au pire, si j'y arrive pas, je fais demi-tour. Et donc, je me décide à partir toute seule. Donc là, j'avais pas d'équipier, hein. Là, je me décide à partir seule parce que l'île de Pâques est fermée. Et moi, je me lance, voilà, dans ce vaste océan. Et là, je vois des baleines, je vois deux baleines énormes qui se mettent à sauter. Comme un bal, quoi, hein, elles sautent. Et waouh, c'est géant, c'est magique. Je continue. Et là, pendant 3 jours, j'ai un bon cap. Mais très vite, le vent faiblit de plus en plus, petit à petit. Et là, je me retrouve à passer Noël quasiment sans vent. Donc là, je sors une voile que j'avais jamais sortie encore. C'est un petit Jeanneker que j'avais fait réparer avant de partir. J'avais fait réviser toutes mes voiles. Et effectivement, elle me permet de continuer d'avancer avec ce tout petit peu de vent qu'il y a. Ça souffle un petit peu dans les voiles et ça avance. Donc je suis contente, j'arrive à utiliser cette voile-là que je ne connaissais pas. Donc pour moi, c'est encore quelque chose, une étape de plus, quelque chose que j'apprends en plus. Et je continue. Et là, plus du tout de vent. 24 décembre, je suis un peu déprimée. J'envoie des messages à Nano, il me dit « Courage, ça va aller, j'ai l'impression. » Donc là, j'avoue que je perds un peu espoir. Puisqu'il n'y a plus de vent, à un moment donné, il faut quand même avancer. Donc je me rends bien à l'évidence que je ne vais pas arriver en une étape à l'île de Pâques. Ça, je commence à prendre conscience. Donc je me dis, je vais me dérouter vers les Gambiers, hein. Donc là, je me paye 3 jours de moteur pour arriver aux Gambiers. 9 jours, donc c'était la première fois que je naviguais autant de temps toute seule. Donc là, je me suis quand même fait quelques frayeurs sur cette navigation-là. Mais sinon, à part ça, ça va. J'ai quand même réussi moralement à remonter la pente. Je me dis, au moins, j'arrive au Gambier, j'arrive quelque part. C'est déjà ça de fait, c'est une étape de fête. Peut-être que je pourrais y arriver quand même, tout n'est pas perdu. Et j'arrive au Gambier. Alors les Gambiers, c'est magique, hein. C'est là où on a les plus belles perles du Pacifique. Donc c'est un atoll avec plein de fermes perlières partout. Donc c'est, ça me plaît, mais c'est pas mon but. Moi, ce que je veux, c'est aller à l'île de Pâques. Donc je me dis, je vais revenir là un autre moment. Je visiterai les Gambiers, je prendrai le temps de rencontrer les gens, les habitants des Gambiers à un autre moment. Mais là, il faut que j'avance. Et là, je me focalise, je me dis que j'ai fait 3 jours de moteur et qu'il faut que je recharge mon tank de gasoil. Il faut que je le remette à 100%. Il n'y a pas de station essence au Gambier. Il y a 2 magasins, c'est tout. Et il y a le minimum de choses. Sinon, c'est que des fermes perlières. Et en fait, il y a un bateau, le Tapolo, qui ravitaille en essence les habitants une fois toutes les 3 semaines. Et là, il venait juste de passer. Donc on me dit, ben, il faut que tu attendes le prochain Tapolo dans 3 semaines pour trouver ton essence. Il me faut absolument mon gasoil. Pendant une journée, je cherche. Et à un moment donné, je me dis, je vais aller à l'église. Tiens, je vais visiter l'église. Et je dis, il me faut du gasoil. Voilà, c'était ça ma prière, c'était il me faut du gasoil. Et là, je ressors de l'église et j'ai Julie qui m'appelle, qui me dit hey, « Eh oh, toi, là-bas, ça va? Tu t'appelles comment ?» Et elle était assise sur les marches de l'église. Alors qu'avant que j'y rentre, elle n'y était pas. J'y ressors, elle y est. Elle m'interpelle. Elle me demande qui je suis, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je veux. Et je lui explique. Voilà, je suis à la recherche de gasoil et parce que j'ai pour mission d'aller à Rapa Nui. Et là, elle me dit « Mais bah, moi, je suis Rapa Nui. Mon ancêtre, mon arrière-grand-père était Rapa Nui. » Et là, elle se donne pour mission de m'aider. Alors, elle appelle tous ses cousins sur l'île et tout. Et en 2 heures de temps, mon tank était plein. Il ne me reste plus que les papiers à faire à la gendarmerie. Parce que là, je vais quitter un territoire. Je quitte la Polynésie française, donc la France, pour aller au Chili. Donc, il faut que ce soit clair avec les douanes et avec la police. Par contre, c'est un risque que je prends aussi parce qu'une fois que j'ai quitté le territoire français, je suis obligée de toucher un territoire étranger avant de vouloir revenir, avant de pouvoir revenir en France. C'est une obligation. Le 2 janvier, j'arrive à aller faire mes douanes de sortie. Donc, en gros, je reste 3 jours au Gambier, le temps de trouver mon essence, faire mes douanes de sortie. Et là, ben, je prends la météo et elle est bonne. Et donc, je m'en vais. Je décide de m'en aller. Donc, j'ai 2800 km à parcourir. Donc ça équivaut à 3 fois Paris-Nice. Il pleut, il se met à pleuvoir en plein dans le chenal des Gambiers. C'est pas grave. J'ai ma carte numérique là sur mon téléphone, donc je suis la carte. Je sors de l'atoll et me voilà partie. Je sais pas pour combien de jours. J'ai une joie en moi. Je me sens joyeuse d'essayer, de tenter ça. Je sens que je peux le faire. Alors, la première nuit, ce qui m'arrive, c'est que j'avais amarré le Jinnaker sur le pont et j'avais mal calculé un peu les vagues et tout. Et une petite bourrasque de vent, etc. Pendant la nuit, le Jinnaker tombe à l'eau. Et je me rends compte le lendemain matin, je vois quelque chose dans l'eau traîner. Je dis, c'est quoi ça? Et là, je me rends compte que c'est la voile qui est dans l'eau. Donc, j'arrive à la récupérer et elle est un petit peu trouée. Mais pas méchant. Comme elle est légère, je me dis, c'est pas grave, j'ai ma machine à coudre, je vais la réparer. Donc je la mets de côté, je me dis, dès que j'ai le temps, je me fais une petite séance couture, dès que la mer est calme, et je continue. Voilà. Donc par contre, j'ai une filière, c'est-à-dire une protection sur le côté qui a cassé, à cause du poids de la voile qui est tombée. J'ai cassé la filière. Bon, bah, c'est pas bien méchant, hein. De toute façon, j'évite d'être sur le pont toute seule. Et puis à chaque fois que je vais sur le pont, je m'attache, hein, bien évidemment. Je continue. Une journée, 2 journées, 3 journées, direction sud-est. Il y a de l'orage la nuit. Donc la nuit, je vois des éclairs derrière moi. Je commence à prendre peur un peu aux orages. Parce que ben, mon bateau, il est en aluminium. J'ai un mât en aluminium en plein milieu d'une flaque d'eau. Donc je vous laisse imaginer si l'orage s'approche de moi. Donc là, je suis pas très rassurée. Ça rassure jamais les navigateurs, un orage en pleine mer. Mais ça va, ils restent au niveau des Tuamotu, donc ils restent derrière moi. Je m'en éloigne de plus en plus. Je les entends, ça gronde. Je vois les éclairs, mais je m'en éloigne. Donc je continue. Et je pars avec mon régime de banane, et c'est un petit peu la seule verdure que j'ai avec moi. Et sinon, bah, c'est des conserves, c'est de la farine, tu peux faire des crêpes si tu veux. Pas mal de gâteaux aussi, de biscuits. Ça, c'est le réconfort pour quand je peux pas m'alimenter, quand je peux pas descendre faire la cuisine. Je peux au moins manger des biscuits, des choses qui me font tenir, hein, c'est au moins du sucre. Et puis je vois les îles Pitcairn passer les unes après les autres. Donc en fait, c'est à 3 jours de navigation des Gambiers, Pitcairn. Donc rapidement, je passe Pitcairn, et puis rapidement, je passe toutes les petites îles inhabitées, parce que Pitcairn, c'est un archipel, donc il y a Pitcairn, l'île principale, et les îles inhabitées autour. Je les passe. J'avais pris contact avec eux, et il m'avait dit, Pitcairn, que je ne pouvais pas m'arrêter à cause du Covid, c'était fermé. Donc là, on me dit, si tu veux, tu peux mettre l'ancre et te reposer autant de temps que tu veux, mais tu pourras pas descendre à terre. Donc moi, je me dis, bah, le vent est bon, ça avance, j'ai un bon cap, je continue. Donc je mets une semaine à peu près à traverser tout l'archipel des Pitcairn, et au bout d'une semaine, le vent change. Et là, je me retrouve avec un vent plein est. Donc là, j'ai le vent de face. Ça, c'est pas bien du tout, parce que moi, je veux aller à l'est. Donc c'est ça ma difficulté, c'est ça mon challenge. Tout le long du périple, j'envoie un message à mes parents, je leur donne ma position, ma vitesse, et à Nano aussi. Et lui, en retour, me donne la météo.
Moi, je ne savais pas la guider. C'est plutôt les gens d'ici qui l'ont aidé, les gens qui ont un bateau ou des amis d'elle qui lui ont donné des informations. Moi, j'avais des amis qui naviguaient, et moi, même si je ne savais pas, j'allais leur demander de l'aide. Ils m'ont donné un numéro, dis-lui d'aller sud 4895, et moi, je me disais, c'est quoi ça? Je vais faire quoi avec ça? Et pareil, j'avais un code pour lui envoyer des messages avec un téléphone satellite, et je lui transmettais ce que mes amis me disaient. Et Apolline n'arrêtait pas de me remercier. Moi, je ne comprenais rien. C'était des coordonnées qui ont sauvé cette traversée. Parce qu'elle n'avait aucun moyen de se diriger précisément. Donc, moi, je lui ai envoyé des infos. Les gens d'ici lui ont envoyé des infos. Et elle a réussi à venir ici comme ça.
Donc je ne sais pas quelle stratégie je veux adopter. Je sais que je vais essayer. Je ne sais pas par quelle technique je vais y arriver. Et d'ailleurs, j'ose pas en parler. Parce que tous les gens me disent, les marins là, qui sont autour de moi me disent « Mais comment tu vas faire? C'est pas possible. Il faut que tu ailles au sud. Tu es toute seule. C'est pas des navigations qui se font seules. Il faut que tu partes au moins à 3. Il faut au moins que tu trouves 2 équipiers. » Et moi, je dis, mais non, mais moi, j'y vais seule. Donc, à ce moment-là, quand le vent passe est, j'ai pas vraiment de véritable option. La seule option que j'ai, c'est d'aller au nord. Parce que au sud, il n'y a pas de vent. À ce moment-là, il y a une espèce de ceinture où il n'y a pas de vent. Et au nord, plus je vais au nord, et plus ils annoncent du vent. Donc, mon contact météo, qui est à Tahiti, donc là, il me dit, va au nord. Et il me donne pas plus de détails. Il me dit, au sud, il n'y a rien, il n'y a pas de vent, va au nord. Oh, alors moi, je vais au nord. Et là, le vent est de plus en plus fort au nord. Je suis toute seule là-dedans, je prie, hein, je vous le cache pas. Hein, quand on est... Je pense qu'il y a très peu de marins dans ces cas-là qui font pas le signe de croix. Hein. Quand on est tout seul au milieu de nulle part et que finalement, notre destin, il est remis à l'océan. Et au ciel, à la météo, il faut avoir la foi. Moi, je pense qu'il faut y croire. Il ne faut pas se poser la question, il faut y croire. Quand je suis en mer comme ça, toute seule, je ne peux que croire, hein, ou au moins je ne peux que demander une protection. Voilà. Et de toute façon, quand on est seul, au bout de quelques jours, qu'est-ce qui se passe? On parle. En fait, on parle à notre bateau. S'il y a des animaux qui passent, des dauphins, je ne sais quoi, on leur parle. On est content, on parle à la nature, quelque sorte. On ne devient pas fou. Hein. Et au final, on ne se sent pas seul. Les jours passent, la routine s'installe et j'ai mon quotidien qui s'installe avec cette météo qui devient de plus en plus dure. C'est-à-dire que j'essaye de gérer mon sommeil, mes repas. Il faut que j'arrive à m'alimenter, il faut que j'arrive à dormir. Quand je vois qu'il y a un gros nuage, ok, je suis là, je suis présente, je suis dans mon cockpit, j'ai ma veste de car, je m'habille, je suis au milieu du Pacifique, mais en fait, il fait froid, enfin... Il faut que se couvrir quand même de ce vent et de cette pluie, de cette humidité. Et à un moment donné, quand je sens que c'est clair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros nuages noirs à l'horizon, je peux m'autoriser de dormir et de manger. Donc bah, d'abord, je mange. Et le plus vite possible, c'est-à-dire que je me prépare un petit truc vite fait, mais quand même, je mange bien, j'ai faim, donc je mange bien, il faut que j'ai de l'énergie. Et après, bah, je me repose le plus que je peux. Des fois, je m'autorise une heure, deux heures de sommeil. J'avoue, hein, c'est pas bien. Normalement, quand on est seul, on doit au moins faire une vigie tous les quarts d'heure pour voir aux alentours s'il y a des bateaux. Mais là, il n'y a personne autour de moi. Donc je me dis, bon, ben, moi, je dors, hein, j'ai besoin de dormir. Donc quand je le sens, quand c'est possible, je vais même dans ma cabine. J'arrive à dormir une heure, deux heures. Et je me rends compte que chaque bruit qui est suspect, chaque bruit qui change un petit peu, me réveille. Dès qu'il y a un tout petit bruit qui change sur mon bateau, je le sens. Et mon inconscient, comme ça, me réveille. Et là, je sors la tête dehors, je regarde, tout va bien, ok, tant mieux, je me rendors. Et voilà, mais ça se passe comme ça, et ça dure des jours, et c'est la même routine tous les jours. Je mets 26 jours à faire des allers-retours. Hein. Donc j'ai tiré des bords. Et à un moment donné, j'avais l'impression d'aller au Galapagos, de remonter au Galapagos sur 800 000 nautiques. Donc sur 1600 km, je suis remontée en direction des Galapagos. Et après, j'ai fait un dernier bord de 700 000 nautiques qui m'a emmenée directement voilà, sur l'île de Pâques. Le dernier long bord, enfin. Et là, c'était une joie parce que chaque jour, j'envoyais mes messages à Nano. Ils étaient de plus en plus... Bah, c'était des messages pires que des lettres d'amour, quoi. Hein, les messages qu'on s'envoyait.
T'as esperando, no podía hacer nada.
Moi, j'attendais, je ne pouvais rien faire. J'essayais de faire mille choses. J'allais à la marine chilienne demander de l'aide. J'allais partout demander de l'aide. Ces jours d'attente, on était durs. Entre ne pas avoir des notions de navigation, ne pas savoir. Et en plus, l'île est toute petite. On peut la dépasser si. Facilement, oui. On peut passer à côté et ne pas la voir. Elle est toute petite. Il n'y a pas de palmiers ou d'arbres qu'on peut voir de loin.
Alors là, les trois derniers jours, il y avait la pleine lune. Oh, c'était la pleine lune. Et là, je sentais qu'il me restait plus que trois jours à naviguer. Il me restait quoi ? Il me restait moins de 500 nautiques, c'est rien. Bah là, maintenant, il faut se préparer parce que bientôt, je vais plus être seule sur mon bateau. Et j'étais habituée à être seule. Finalement, là, je me dis, mais mince, mais j'ai ma petite routine. Eh ben, ça se prépare mentalement. Je sais que bientôt, c'est fini. Je serai plus jamais seule. À un moment donné, je vois la Terre. Mais cette Terre, elle m'a paru mais tellement loin d'arriver à l'île de Pâques et de voir, j'en ai des frissons encore, de voir cette île-là, ce petit bout de terre, mais petit. Je sens cette solitude de cette île qui est tellement isolée. C'est l'île habitée la plus isolée au monde. Et moi, je me suis sentie tellement isolée ces derniers mois, ben, j'ai l'impression de la comprendre. Je m'approche d'elle petit à petit, je la vois de plus en plus grande et j'arrive en fin de journée. Et j'étais tellement seule pendant tellement longtemps, donc pendant 26 jours, hein, c'est mon 26e jour là, que j'en oublie d'allumer ma radio. Donc il y a la Marina là qui m'appelle à la VHF, mais moi j'entends rien, donc je réponds pas. Et je suis un petit peu dans ma bulle, je profite de cet instant, je distingue les Moai, je les vois au loin et je déguste. Donc je vise le village principal, j'arrive et là, Il y a la marina qui arrive. Voilà, les officiers de la marina qui arrivent et qui me disent « Oui, la VHF, nanana, t'as pas mis ta VHF ?» Ouh là là, je me dis « Ah oui, c'est vrai, je suis plus toute seule. » Donc j'allume ma radio et là, on prend contact par radio. Et là, ils me disent « Il va falloir prendre une bouée. » Il va falloir prendre une bouée et tu pourras pas descendre à terre et Nano pourra pas venir te voir parce que il faut faire une journée de confinement.
Los gobiernos no tenían noción de nada. Nadie tenía una idea.
Personne
de
ne savait
nada.
Rien. Entonces, dije, alors, je me suis dit, je vais prendre mon casse-croûte et je vais monter et attendre en quarantaine avec elle.
Donc, je le vois, il est dans le bateau, dans un autre bateau, un petit bateau de pêcheur, un bateau de son ami.
Pero, me dicen que
mais
no podía
ils m'ont dit que je ne pouvais pas monter sur le bateau. Je ne pouvais pas avoir des contacts avec elle, que je devais attendre un jour. Je lui demandais, mais pourquoi? Il y a quelque chose de spécial que vous savez à faire? Et ils m'ont dit non, c'est une question de papier. Après avoir entendu vent 30, presque 30 jours, je vois cette femme. Après une navigation intense, je vois qu'elle est épuisée.
Et elle
doit rester seule. J'ai dit non, je vais monter.
Et l'armada de Chile se quedó ahí a vigilar que no subiera.
La marine chilienne restait là à surveiller que je n'ai pas de contact avec elle. Du coup, de pareil, je le fais de nuit. J'ai attendu qu'il fasse nuit avec l'aide d'un ami. Il était dans un bateau, je l'ai fait comme en tenant une veste, comme si j'étais à côté de lui, et je lui donnais un signal. J'ai sauté dans l'eau, j'ai plongé, je suis resté sous l'eau pendant qu'ils partent à toute vitesse pour que la marine se mette à les suivre, et ils l'ont suivi, et moi j'ai nagé sous l'eau et je suis monté dans le bateau.
Et donc, le voilà à sauter à l'eau, il saute à l'eau, il remonte à bord, et là, on se retrouve. Donc forcément, on se retrouve en cachette, et très tôt le matin, il me dit « je partirai à 4h du mat' avant que la marina arrive, avant que le jour se lève ». Les retrouvailles, c'était intense, hein, forcément, après tout ce temps séparés. On était vraiment très, très, très heureux de se retrouver. C'était quelque chose de magique et incroyable à la fois. Et on l'a vécu à 100%. On se sent à ce moment-là dans un état où tout est possible. C'est-à-dire qu'on a vaincu toutes les frontières. On a le sentiment d'avoir réussi à braver tout ça.
Et le premier jour, heureusement que je l'avais rejoint. Parce qu'ils avaient obligé à s'attacher à une bouée qui, pendant la nuit, s'est détachée. Si elle restait seule, les bateaux seraient allés vers la côte. Heureusement, j'étais là. On a pu faire une manœuvre pour l'amarrer à nouveau. Et on a réussi. C'était intense. Après, je dois appeler un cousin pour qu'il vienne à 5 heures du matin, passer à côté de son bateau et j'ai sauté du bateau et on s'est sauvé parce que c'était interdit.
Donc Nano, à 4 heures du mat, paf, le jour se lève, son ami qui vient le chercher rapidement, il monte à bord, il s'en va. Et moi, vers peut-être 8 heures, quelque chose comme ça, j'ai tout l'artillerie lourde, c'est-à-dire 12 personnes qui montent à bord. Et là, j'ai donc la douane, l'immigration, la police aux frontières, les sanitaires, donc pour voir si j'ai pas le Covid, me prennent ma température. Et voilà, et ils regardent avec une GoPro, ils plongent sous le bateau, ils vont voir si on n'est pas ancré sur le corail. Ils me font signer plein de papiers, d'immigration, et voilà. Alors, je ne suis pas encore autorisée à débarquer, parce que, en fait, à l'île de Pâques, il ne faut jamais laisser le bateau seul. C'est la consigne, mais moi, comme je suis toute seule, si je veux aller à terre, je suis obligée de laisser le bateau seul. Donc, les premiers jours, Nano m'a rejoint, hein, on n'a pas vraiment descendu du bateau. Et puis après, au fur et à mesure des jours, on s'est autorisé à descendre à terre.
Todos se rieron al principio.
Tout le monde s'est moqué au départ. Parce que si tu dis à ton frère ou à n'importe quel membre de ta famille
que tu estás en el medio
que
t'es
au milieu de l'océan et qu'une femme va venir te chercher, l'image qui se crée dans la tête de cette personne, c'est ça doit être une femme forte. Deux, elle doit être grande.
Parce que
comment une femme normale pourra faire cette traversée? Bah non. Donc tout le monde riait en se disant, ah bah, c'est une gaillarde, grande et forte, qui vient te chercher. Énorme. Et il s'est marré. Mais quand elle est arrivée et qu'on a vu Apolline, Apolline pèse 56 kilos, elle est toute fine. Je leur ai dit, là voilà, la femme forte qui est venue me chercher. C'était une leçon pour tout le monde.
La fortaleza va por dentro.
La force vient de l'intérieur. Pas besoin d'être une géante pour être forte.
Alors on est resté 3 mois à l'île de Pâques. Parce que je suis arrivée fin janvier donc. Et ça nous a permis de profiter donc février, mars, avril. C'est l'été là-bas, donc on a bien profité. Même si c'est l'été, il y a quand même des petits épisodes de tempête qui peuvent arriver. Donc il y a eu par exemple des moments où pendant 3 semaines on pouvait être tranquille à descendre à terre tous les jours. Et à rester face au village, donc ce qui était pratique. Et par contre il y a eu 3 semaines où on pouvait pas du tout descendre à terre. Voilà.
Entonces fue todo como entre
et voilà, notre amour a vraiment grandi parmi les interdictions. Dans un monde interdit, tout était interdit.
Desde el primer día tuvo todo increíble. Todo.
Depuis les premiers jours, tout était incroyable. Depuis les premiers jours, depuis le moment où elle est arrivée, et durant les 3 mois qu'on a passé là-bas, évidemment, elle est tombée enceinte.
Eso también empezó ça, a mover diferente la navegación.
Ça aussi a modifié un peu la traversée.
Después de que se embarazó,
quand elle est tombée enceinte, c'est devenu une course contre la montre. Tout était plus rapide, tout était plus intense. Il fallait que ce soit plus sûr, car il y avait avoir un bébé.
Era yo que no sabía
ce n'était plus juste je ne sais pas naviguer. C'est devenu je ne sais pas naviguer et un bébé arrive en plus.
Como que las alarmas del cuerpo, el cuerpo tiene
alarmas. Et du coup, l'alarme du corps, car le corps a des alarmes, se sont toutes activées.
Il a fallu que je fasse confiance à Nano pour le retour. Parce que ben on voulait pas. Hein. Le but c'était de pas rester à l'île de Pâques. On pouvait pas sortir le bateau de l'eau. Il y a pas moyen de sortir le bateau de l'eau là-bas. Alors Nano, lui, il avait jamais fait de bateau de sa vie du coup. Hein. C'était un projet qu'on avait ensemble, mais on n'avait jamais encore eu l'occasion de s'entraîner. Donc là, je l'ai complètement mis dans le bain dès le début. Hein, et il est rentré à l'école dure dès le début. Donc pour commencer, on s'est fait un petit tour de l'île déjà, tous les deux, comme ça. On a fait le tour de l'île de Pâques, ça a duré une semaine. Et ensuite, on est allé faire une expédition à Motumotiro Hiva. C'est un petit motu qui est à 3 jours de navigation de l'île de Pâques en direction du Chili, donc encore plus à l'est.
Autour de moi, tout le monde est déjà au moins monté sur une planche à voile. Mais moi, je n'avais aucune notion de comment faire du bateau, de comment fonctionne un bateau à voile, de comment il fait pour avancer. Je ne savais rien. Et quand je suis dans le bateau, j'ai vu qu'Apolline avait peur parce qu'elle aurait voulu que je sache pour l'aider. Parce que c'était une chose de venir jusqu'à Rapa Nui, mais il fallait aussi rentrer. Et je voyais dans son regard qu'elle voulait qu'on rentre de manière sûre. Alors essayer de m'apprendre. C'était beaucoup, beaucoup d'informations pour quelqu'un qui n'a jamais monté sur un bateau. Des informations sur comment naviguer, des infos sur comment se tenir sur un bateau. C'était ces bateaux sur lesquels je me suis cogné partout. Je me suis cassé les doigts, j'ai perdu mes ongles, tout. J'ai fait mon apprentissage auprès d'Apolline, comme capitaine, mais aussi auprès de ces bateaux qui m'a fait baver. Vraiment. C'était vraiment intense, parce qu'à Rapa Nui, les bateaux n'étaient jamais tranquilles. Jamais.
Quando il mare sta tranquillo, il
même sur une main calme, les bateaux bougeaient comme si la mer était mauvaise. Il n'était jamais tranquille. Et mais voilà, un bateau qui est sans arrêt mouvement, ça te fait apprendre très vite.
Si tu, no si tu ne suis pas en son mouvement, bam, bam,
te va golpear mucho. Tu vas te cogner tout le temps. Donc ça, ça m'a fait comprendre rapidement comment se tenir sur un bateau.
À un moment donné, il a fallu quitter Rapa Nui, il a fallu quitter l'île. Donc j'avoue qu'on a traîné un peu pour quitter l'île, on traîne un peu, on prend notre temps, parce que on veut profiter de la famille aussi, on sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Nano, il hésite aussi un peu, enfin il hésite pas à monter à bord, mais quand même, je pense qu'il appréhende, c'est sa première grande navigation, il sait pas trop à quoi s'attendre, il sait pas trop ce qu'il faut qu'il emmène comme chose, il me demande mais j'ai besoin de quoi pour remonter, pour naviguer, qu'est-ce que je prends?
Je pense que je suis la première personne qui monte dans un bateau et ne sachant rien et qui part pour une traversée des 30 jours. C'est une chose que ta femme soit venue te chercher et tout risquer, mais là, vous allez partir avec un bébé? La pression est devenue plus forte. Toute la famille, non, vous ne pouvez pas partir avec un bébé. Tout le monde te dit, tu vas tomber. Mais tu dois rester fort. Une personne m'a donné de la force, une grand-mère, et la sœur de la mère de ma mère. C'est la seule qui m'a regardé un jour où j'étais chez elle. Elle me regarde, elle me dit, oublie-les tous et vas-y. Vous avez tous peur, vous êtes tous jeunes. Et elle m'a dit d'y aller. Alors, j'ai écouté l'expérience, on a décidé donc de partir. Notre famille est contre, les gouvernements sont contre, les gouvernements non plus ne voulaient pas qu'on parte parce que le pays était fermé et ils ne pouvaient pas partir d'un pays fermé. Le Chili était fermé. J'ai tout fait pour qu'ils me disent « Allez, vous pouvez partir, mais non, 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 non. » J'ai dit à Pauline « Montons sur les bateaux et partons. »
Donc là, toute la famille participe. Ils nous donnent énormément de fruits. On part, je ne sais pas, avec peut-être 80, 100 avocats. On a tellement... C'est la saison des avocats là-bas. Et on a aussi des tomates, des concombres. On va chercher des patates douces. Énormément de bananes. On a, je crois, 7 régimes de bananes. Donc on est fin avril 2021. Donc là, il y a une tempête qui arrive. Et on aurait déjà dû partir depuis le début du mois, début avril, pour si on veut avoir une bonne météo. Donc là, on a quelque chose qui nous arrive dessus, une tempête, et il faut qu'on parte, on n'a pas le choix. On ne peut pas sortir le bateau de l'eau, on ne peut plus rester proche des côtes. Ça devient dangereux, en fait, avec un bateau, d'être si proche des côtes.
Le mauvais temps arrivait, une tempête énorme arrivait. Ça nous mettait une pression en plus pour partir. Mais pareil, je savais que c'était important. Quand tu sais que tu peux faire quelque chose, il faut le faire.
Et c'est comme ça qu'on a quitté l'île de Pâques, un peu en urgence, une petite signature, un petit tampon et c'est parti.
Et quand on est parti, c'était un jour avant la tempête, un jour tranquille, doux. On est parti ce jour-là, c'était mon premier jour de navigation. Et Apolline m'a dit, va te reposer parce que ça sera à ton tour de surveiller après. Et quand Apolline a toqué et m'a réveillé, j'ai ouvert les yeux, je suis sorti. Et dehors, c'était l'enfer, un autre lieu. Il me dit, tranquille, viens, sors, c'est à toi. Il faut que tu restes ici et que tu regardes juste qu'on ne rentre pas dans un bateau. Donc, c'est un jour vraiment choquant, intense. Je n'arrivais pas à réaliser. Quand je suis sorti, Apolline avait l'air toute fine, toute petite. Et l'orage, la tempête avait l'air énorme. C'était comme un signal. Et si tu arrives maintenant, tout ira bien.
Là, à ce moment-là, on pense partir pour 2 semaines. Et en réalité, on met 30 jours. 30 jours bah, pour aller retrouver les Gambiers, hein, l'île, la dernière île que j'avais quittée, les Gambiers. Et on arrive aux Gambiers. Bah, tout le monde nous attendait. Hein, tout le monde était au courant de notre histoire. Tout le monde était au courant du Rapa Nui qui allait arriver bientôt. Et tout le monde nous attendait en quelque sorte.
Después de ese día de tormenta, fue como que
après ces jours d'orage, des tempêtes, c'est comme si j'avais ouvert une porte. Cette porte s'est ouverte et j'ai senti tout le temps. Je me suis senti accompagné, mes ancêtres, mes tupunes. Un jour, un poisson énorme s'approchait, un thon blanc. Mon côté chasseur voulait le chasser, mais mon côté maori, de respecter la nature et de la sentir, était aussi présent. Et c'est ce côté-là qui était le plus fort. Je l'ai vu et j'ai vu comme il me mettait de côté et me regardait. On dirait un film. Mais c'est mon film que j'ai vécu. Je l'ai vécu comme ça. J'ai senti que mes Maori, mes ancêtres, étaient avec moi tout ce temps-là et m'accompagnaient. Je ne me suis senti jamais seul. C'était vraiment fort parce que je suis polynésien. Je suis Maori. Nous avons une connexion avec la mer.
Et Hiva, comme ils disent les Polynésiens, c'est Hiva Nui, c'est la mer qui nous a fait nous retrouver. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est fort dans notre histoire. Les Polynésiens, à l'époque, ancestralement, pour eux, la mer, en fait, c'est comme... une partie de la terre, il n'y a pas de vide, c'est la connexion. C'est la mer qui fait la connexion entre la terre et c'est un tout. C'est pas un vide, la mer, c'est un plein avec tout son écosystème. Donc le fait que moi, j'arrive par la mer à Rapa Nui pour retrouver Nano, ça a été vu aussi par les gens de Rapa Nui comme quelque chose de fort, de vraiment très symbolique, vraiment très fort.
Nous avons un fils magnifique. Nous représentons notre culture et nous en sommes fiers. Et mon fils va tout changer parce qu'il va faire revivre la navigation sur mon île.
Et puis voilà, on va en faire un petit navigateur de ce bébé-là. Ce sera un marin. Il s'appelle Hakaala Tupuna Otetaimana Maori. Donc, ce qui veut dire le descendant des ancêtres du triangle Maori. Et c'est déjà un nom assez long, donc il n'a pas de nom français, c'est son prénom, c'est ça. Et voilà, donc lui, il symbolise un petit peu tout ça. Il symbolise cette connexion entre les îles. C'est un descendant des ancêtres du triangle, donc tous les ancêtres réunis de toutes les îles du triangle polynésien. Son petit nom, c'est Haka. On l'appelle Haka au quotidien. Et lui, on compte bien le faire naviguer aux 3 coins du triangle polynésien. Notre but, en fait, ça va être qu'il connecte ces îles par la mer. Ce sont les vents qui nous guideront.
Cet épisode de Passage a été tourné par Stéphanie Thomas. Et le montage a été fait par Capucine Rouault et Gautam Shukla. Clémence Relia était à la réalisation et au mix, et Eduardo Zambrano a doublé la voix de Nano. À très vite.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.